À Libre-Échange, aujourd'hui, on va parler de ce projet de loi 40 qui a été déposé à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient amener de grandes modifications au niveau des commissions scolaires actuelles. On veut donc éliminer, ni plus ni moins, ce qui existe actuellement au niveau de la gouvernance et amener ça en centre de service. Il y a aussi des éléments nouveaux par rapport à la nomination justement de des nouveaux conseils, parce que ce serait des conseils d'administration, et aussi des nouveaux rôles qui seront joués pour les conseils d'établissement pour les écoles. Alors, comment on voit ça du côté de chez nous? À la commission scolaire des Chic-Choc, le vice-président est avec nous, Antonio Blouin. Bonjour.
Bonjour.
Ben, vos premiers commentaires, oui, tiens, par rapport à ce qui est déposé en ce moment.
Ben, la réforme Roberge, à mon sens, c'est une réforme qui est au niveau des structures et ne s'attaque pas au véritable problème. Il y a un problème, c'est un fait, on le sait, c'est pas nouveau, là. Le problème est au niveau de la participation aux élections. On sait que les gens se bougent plus ou moins pour se donner le droit qui est le leur de voter, sauf que ils ont toujours la possibilité, quand ça ne fait pas leur affaire, de sortir quelqu'un du système.
Alors, ce qu'on comprend de ce projet de loi, ça viendrait reviser beaucoup plus l'organisation ou la gouvernance des commissions scolaires. On disait abolir les commissions scolaires, c'est pratiquement abolir plus la question de la gouvernance, les commissaires, pour remplacer ça donc par un centre de services scolaires. Alors, il y aurait comme un conseil d'administration au lieu des commissaires, si on veut, qui sont élus. Ce serait un conseil d'administration qui serait nommé, donc constitué de 16 membres non rémunérés. On nous dit donc 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires. Alors, ces derniers seraient élus avec les directions d'école, le personnel scolaire, les professionnels et le personnel de soutien. Et dans tout ce débat-là, le gouvernement juge qu'effectivement la participation citoyenne aux élections scolaires est faible. Il y a un chiffre de 5 % qui circule, là. Comment vous voyez ça de votre côté?
Bon, d'une part, le taux de participation est quand même un peu plus élevé que ce que vous mentionniez, là. Deuxièmement, la démocratie scolaire, à mon sens, c'est une démocratie à la base. Et on pourrait étendre le raisonnement à tous les autres niveaux de politique, je pense aux municipalités. On sait très bien que dans les municipalités, il y a plusieurs échevins qui sont élus sans opposition. Pourtant, ils sont légitimes. C'est la même chose, vous me direz, au niveau scolaire. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, vous direz que les gouvernements du Québec, bien souvent, sont élus par peut-être 30 % de l'ensemble de la population. Pourtant, ils sont légitimes. Alors, dans ce sens-là, je pense que le problème de la participation aux élections, là, on n'y fait pas face en changeant les structures. D'ailleurs, je dois mentionner que depuis des années, on suggère au gouvernement certaines pistes de solutions à cet égard-là. Entre autres, on a suggéré que les élections municipales se tiennent en même temps que les élections scolaires. Donc, ça favoriserait probablement une augmentation de la participation. Ceci étant, la nouvelle composition, écoutez, vous allez demander à plusieurs personnes qui sont déjà dans le système de participer au conseil d'administration. J'entends, entre autres, les parents. Et les parents, déjà, sont surchargés, on le sait. Les activités parascolaires, le sport, les leçons de piano, etc., etc., déjà, ça fait en sorte que les parents sont peu disponibles. Et on le voit par le nombre de postes vacants qu'il y a, soit dans les conseils d'établissement, soit dans les comités de parents, etc. Donc là, je pense qu'on rêve un peu en couleur en disant qu'on va facilement combler les postes par la présence de parents. Tant qu'aux directions d'établissement, je vous dis, ces gens-là sont déjà surchargés. Plusieurs ont plus d'une école à leur charge. Et qu'on leur demande de participer en plus à un conseil d'administration, j'ai beaucoup d'interrogations.
Dans son projet de loi, le gouvernement veut aussi inverser la pyramide. Il dit donc de décentraliser les pouvoirs, revenir à la base, donc partir de la base et aller vers le haut, donc donner plus de pouvoir, notamment au conseil d'établissement, qui pourrait adopter des projets éducatifs dans leur école, un peu prendre les orientations pour mieux soutenir la réussite scolaire. Donc, on peut parler d'horaires, de grilles, de matières, donc ce qui sera enseigné au primaire. Et d'un autre côté aussi, pour les fameux centres de services scolaires. Donc, on donnerait plus de pouvoir pour faire de la rénovation. On n'aurait plus besoin de passer par le ministère. On jouerait à peu près le même rôle, de toute façon, que les commissions scolaires, hein, taxer la taxe scolaire, organiser le transport scolaire. Donc, voyez-vous ça comme ça aussi?
Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est un non-sens parce que, écoutez, déjà, là, le nombre de jours d'école est déjà sanctionné légalement. Deuxièmement, le cadre d'ensemble, que ce soit en termes de matière, que ce soit en termes de compétences, etc., c'est déjà réglementé au niveau du ministère. Ça descend au niveau des commissions scolaires, puis on l'applique tout simplement dans les écoles. Alors ça ne changera en rien. Bon, la grille, écoutez, déjà le projet éducatif, la grille, ces choses-là, les écoles font déjà un grand travail, puis il est, comment dire, supervisé, ou c'est à peu près tout, par la direction générale. C'est le travail de base est fait au niveau des écoles. Alors, à ce moment-là, ça ne changera pas grand-chose non plus, là.
Et parlant des économies, parce que le ministre estime qu'avec ce projet de loi, on parlera de 45 millions sur 4 ans. Ça permettrait d'embaucher du personnel, des professionnels notamment.
Bon, rétablissons certains faits. D'abord, on parle de sur 4 ans, ce qui ramène ce que dit le ministre actuellement. On parle de 11 millions par année. Initialement, il parlait de 20 millions. Il a changé sa version lorsque la FEDE a produit certaines informations. Ça a été ramené à 13 millions. Là, il parle de 11 millions. Il oublie de citer, par contre, que les commissions scolaires anglophones vont continuer à élire leurs représentants. Donc, ça va affecter encore le 11 millions. Il reste donc quelques millions, et ça, ces quelques millions-là, là, c'est une goutte d'eau dans l'océan si on fait une comparaison avec le budget total du ministère.
Donc, ça n'en vaut pas la peine. Combien gagnent les commissaires chez nous?
On peut parler aux alentours de 5 000 $ annuellement, là.
Il y en a combien?
On a 8 commissaires.
Alors, pour vous, c'est pas ça qui va faire un grand changement?
C'est négatif, là. Ouais. D'autant plus que les nouveaux administrateurs auront aussi des jetons de présence. Donc, ça diminue toujours l'écart. D'autant plus que ce qui fait souvent dans nos régions, ce qui fait souvent office de dépenses, là, c'est les frais de déplacement parce que nos secteurs sont grands. Alors, que ce soit des administrateurs ou des commissaires, ils auront les mêmes déplacements à faire.
Vous avez abordé, évidemment, le fait que les élections seront maintenues pour les commissions scolaires anglophones et que le gouvernement ne sauvera pas nécessairement le 11 millions dont on parle. Et cet aspect-là aussi, ça dérange un peu, si on le voit par rapport à d'autres commissions scolaires, le fait qu'on va continuer de permettre aux commissions scolaires de d'élire leurs commissaires par suffrage universel au lieu de les nommer. Est-ce que c'est un peu le même principe pour vous?
Bien sûr que c'est un irritant, hein? Que ce soit un droit prévu au plan constitutionnel pour les anglophones, je veux bien. Mais ce qui est bon pour un devrait l'être pour l'autre. Alors qu'on a deux poids, deux mesures en la matière, là, ça constitue un irritant majeur, à mon sens.
Mm-hmm. Ça a été soulevé par d'autres commissions scolaires aussi, cet aspect-là. Mais le gouvernement, justement, en vient à cette décision parce qu'on ne veut pas avoir de contestation devant les tribunaux par rapport à la Charte des droits et libertés canadienne qui protège l'éducation dans la langue des minorités. Alors, c'est là-dessus qu'on
Mais
se base.
Si on juge bon de maintenir une démocratie chez les anglophones, pourquoi on ne juge pas bon de le faire chez les francophones?
En bref, donc, on ne devrait pas changer le système actuel. Ça fonctionne bien selon vous. Donc, on ne devrait pas, si on comprend bien votre idée, il n'y a pas grand-chose à gagner avec ce changement-là.
En termes de coûts, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ceci, je vous dirais que ça me fait penser un petit peu à la réforme Barrett. Mm-hmm. On a changé des agences pour des régies ou l'inverse, là, et ça a donné des résultats qu'on a connus. D'autant plus que ce changement de structure avait été pensé aussi par le gouvernement précédent. Et le ministre Blais, à l'époque, est revenu sur sa décision, tout comme le ministre Reid l'avait fait des années auparavant lorsqu'il avait voulu abolir les cégeps. Son projet de loi est mort au feuilleton aussi. Alors moi, je pense que actuellement, là, on a un mauvais remède pour un problème qui est identifié et connu.
Bien, merci beaucoup, Antonio Blouin, vice-président de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Merci pour avoir bien commenté, bien voulu commenter ce projet de loi. On verra, parce que bon, il y aura évidemment une commission parlementaire, on va discuter tout ça, mais la date qui est fixée, ça semble être fin février. D'ici ce temps-là, ben, on verra si le gouvernement entendra votre plaidoyer.
Ça m'a fait plaisir.